18h-19h, Tribune Nord, Sylvain Charlet, sur France Bleu Nord.
Et vous le savez, on fête aussi les 30 ans de l'ouverture du tunnel sous la Manche. Hein. D'ailleurs, c'était une émission So British.
Oui, carrément. Là, j'ai eu le plaisir avec Laurence Fabry de passer deux heures tellement british qu'on s'est régalé, et Jean-Sébastien Lebon.
Donc nous allons faire l'émission en anglais. Donc j'ai fait appel à des consultants capables de débriefer en anglais.
À voir leur tête, je doute, hein, mais bah, ils viennent de l'apprendre.
Ouais, je voulais les prendre un peu par surprise.
Ouais. Ça marche.
Vous voulez pas qu'ils apprennent leur texte par cœur, savez. Parce que s'ils répètent trop longtemps après.
Oui, non, c'est pas naturel, on le sait bien, la radio, il faut du live, du freestyle.
Ce sont de vraies voix.
Des
voix pour livres d'enfants, pourquoi pas. Ben voilà. Il y a Mathieu Dermot qui est là. Salut Mathieu d'Indicateur.
Salut Sylvain, bonsoir à tous.
Qui va commencer ce match tout à l'heure en anglais, s'il vous plaît, please.
Yes, of course.
In English, please. Mathis Caron from France, but no.
Bonjour. Salut Sylvain, bonsoir à tous.
Et Yann Dupré de La Voix du Nord qui est là, patron du service des sports. Hello Yann.
Hello.
Bon, on a pas mal de choses en français dans le texte. On va parler tous ensemble de ce match au sommet. Lille qui accueille Lyon tout à l'heure. Il faut gagner pour décrocher la Ligue des Champions en fin de saison. Parce que gagner, ça veut dire prendre la troisième place et avoir un accès direct à la compétition. Mais toujours sans Benjamin André. On verra si cela peut avoir des conséquences néfastes. Lens, lui, de son côté, est en ballotage favorable pour décrocher la sixième place. Elie Wahi a marqué, là aussi on va en reparler, sujet qui revient semaine après semaine. Dunkerque lui est tout proche du maintien après nouveau succès 2-1 face à Quevilly. On verra les détails de tout cela, mais normalement c'est bon à 99,9%. Et on connaît aussi les nommés pour le trophée du meilleur joueur de Ligue 1, on l'a appris cette semaine. Avec pour certains une anomalie, ça fera notre buzz de réseau, la présence d'un certain Edon Zegrova sur la même ligne que Kylian Mbappé pour ce titre de meilleur élément de la Ligue 1. N'oubliez pas également qu'on va vous faire gagner le ballon de la Ligue 1. Ce n'est pas le ballon de la première Ligue anglaise, le ballon Kipsta Décathlon. Il sera gagné au standard. Question de sélection, peu avant 18h30, vous appellerez Ahmed au 03 20 55 89 89. Vivien est à la réalisation de cette émission. On est parti pour une émission niveau première Ligue anglaise.
Tribune Nord, toute l'actualité du LOSC en direct sur France Bleu Nord, Sylvain Charlet.
Et match au sommet que l'on commentera tout à l'heure à partir de 20h. On filera au stade après l'émission avec Mathieu Dervaux. Match très très important, la grosse occasion. Lille peut reprendre la troisième place de la Ligue 1 à Brest. Je vous rappelle le classement. Monaco 61, Brest 57, Lille 55, Nice un peu plus loin avec 51 points. Brest a été tenu en échec par Nantes 0-0. On parle de ce sprint final. On commence par la course à la troisième place avant d'évoquer la course à la sixième. C'est vrai que l'occasion est belle, hein, Yann Duploy. Les Lillois, est-ce qu'on peut dire oui, voilà, ils ont leur destin entre leurs mains, ce qui n'était pas le cas avant le début de cette journée. Il fallait soit un échec de Monaco, soit un faux pas de Monaco qui a battu Clermont 4-1, ou de Brest, et c'est arrivé.
Brest a été accroché par Nantes à la maison, 0-0. Nantes qui joue le maintien, et Brest qui a été un peu gêné par des blessures intempestives et assez tôt dans le match pour Lesmelou et Del Castillo, je crois.
Del Castillo, exactement.
Donc, deux gros joueurs qui sont sortis.
En première mi-temps, hein, 28e et 41e.
Ouais. Et du coup, Lille, ce soir, son destin entre les mains, il reste trois matchs pour eux, et s'ils gagnent les trois, ils sont Ligue des Champions. C'est déjà une certitude.
Alors, je vais redonner le programme des trois matchs de nos Lillois. Il y aura pour conclure la réception de Nice. Nice qui aura peut-être déjà validé sa cinquième place, puisqu'il y a vraiment un trou avec devant et avec derrière, avec les équipes qui jouent la Ligue des Champions et celles qui jouent la Ligue Europa Conférence. Et puis, Lille doit aller le prochain déplacement à Nantes. Voilà, non pas à Rennes, c'est Lens qui ira à Rennes le week-end prochain. Mathis, c'est vrai que là, les Lillois, je sais pas si vous avez suivi le match de Brest tout particulièrement. Perso, je l'ai suivi de manière tendue. Hein. J'avais pas les images, mais je rafraîchissais régulièrement le téléphone. Tenez-moi ce 0-0 à Minanté pour faire notre bonheur ce soir.
Ouais, déjà, les Brestois nous avaient déçus la semaine dernière avec ce match fou contre Rennes qui a frustré, je pense, tous les Lillois avec ce but à la dernière
97e.
Seconde, qui a remis Brest devant et qui leur a permis de partir avec les 3 points. Là, heureusement, ils ont fait un faux pas. Moi, je l'avais dit, je l'ai répété dans cette émission. Je sentais de toute façon que Brest allait à un moment lâcher parce qu'ils s'en sortaient sur des miracles. Les semaines précédentes, contre Rennes, on l'a dit, 5-4. Contre Metz aussi, c'était un exploit. Là, il leur reste 2 matchs. Donc, ce sera sans Lesmelou, ce sera sans Del Castillo. C'est peut-être leurs 2 meilleurs joueurs. Donc, Bradley Locos, il sera absent parce qu'il est suspendu. Donc, moi, je vois Brest presque encore perdre des points. Et Lille... je pense que ces deux réceptions vont être plutôt des matchs abordables. On sait qu'à domicile, Lille, c'est très solide. Ce qui me fait le plus peur, c'est ce déplacement à Nantes, je dirais.
Ouais. Alors, donc, je rappelle Brest qui doit recevoir Reims lors de la prochaine journée et qui ira à Toulouse. Mais on a encore eu la confirmation, Mathieu Dervaux, que voilà, quel que soit le nom de l'adversaire, voilà, le football fiction, c'est bien gentil, mais ça passe pas tout le temps.
Ah, sinon, ça nous plairait pas autant, on va pas se mentir, si clair. C'était écrit d'avance. Mais oui, alors, je vais faire l'oiseau de mauvais augure. Moi, je suis un peu moins optimiste que vous autour de la table. Je dis pas qu'on finira pas troisième, voire même second. Mais je trouve qu'on enterre un peu vite Brest, qui a quand même deux matchs qui leur restent, contre Reims et contre Toulouse, contre deux équipes qui sont déjà en vacances, quasiment. Reims, ils ont déjà mis les tongs depuis longtemps. Will s'en va. Donc, bon, alors certes, ils perdent Del Castillo et Pierre-Ernest Melou, qui sont sûrement les deux meilleurs joueurs brestois, mais il va falloir pour Lille aller jouer à Nantes, qui joue son maintien et qui aura fortement envie de l'assurer dès la prochaine journée. Donc, c'est pas du tout cuit. Lyon, c'est la meilleure équipe depuis le mois de février en termes de classement, donc je veux pas qu'on vende la peau de l'ours.
Vous, le 9 sur 9, il va falloir aller le chercher.
Ouais, voilà, ouais. Je pense qu'il va... Alors, on a notre destin entre les mains, et comme l'a dit Yann, je pense que c'est la principale info et la très bonne nouvelle du nul brestois.
Exact.
Mais c'est loin d'être acquis et en disant, bon, bah, voilà, on prendra 9 points, 3 victoires contre des adversaires sur le papier relativement abordables, et puis on fera la fête pour la Ligue des Champions. Quoi. Mm-hmm. Il y a encore quelques marches à franchir, je pense.
Yann ?
Moi, je pense que le match le plus important des trois qui reste à Lille, c'est celui de ce soir. Mm-hmm. Parce que s'ils prennent la main, je pense qu'ils ne la lâcheront plus. C'est une équipe qui a l'habitude de jouer des matchs importants, qui a d'habitude des sprints finaux pour aller chercher une qualification européenne. Ça fait quand même plusieurs saisons qu'ils jouent ça à la fin. Brest n'a pas cette habitude-là. Et Brest qui finit à Toulouse. Toulouse, c'est une équipe qui a plus rien à jouer, mais qui est toujours embêtante à jouer. Je me souviens l'an dernier, après la finale de Coupe de France, je pense que c'est Lille qui avait... Non, c'est Lens qui était là-bas.
Lens et qui avait galéré là-bas, à gagner là-bas. Ouais, qui gagne à l'arraché. Je me rappelle de Lille qui galère à 3 lors de la dernière journée et qui perd sa place en Ligue Europe, mais on est
Lens à Toulouse juste après la Coupe de France. Tout le monde se disait Toulouse en vacances, ils ont gagné la Coupe. Et en fait, ils ont joué le jeu et c'est pas toujours facile d'avoir une équipe démobilisée. Dernier match devant son public. Une équipe comme Toulouse qui fait une saison plutôt sympa avec la Ligue Europa, tout ça. Moi, je pense qu'ils vont vouloir faire quelque chose. Donc, Brest, je ne les vois pas prendre les 6 points non plus.
Mathis ?
Je voulais ajouter sur Brest aussi qu'on parlait des vacances tout à l'heure avec Mathieu, certaines équipes qui n'ont plus rien à jouer. Mais Brest, quand on entend le discours de l'entraîneur, on peut s'inquiéter aussi de leur forme actuelle.
Enfin, c'est vrai.
On l'a entendu dire qu'ils avaient hâte d'être en vacances. C'est un peu délicat de dire ça, je trouve, dans la conférence de presse. Et puis, il a surtout dit juste après ça qu'il fallait peut-être ne pas oublier d'où il venait et se contenter parfois du minimum. Pour moi, c'est un discours qui
m'inspire. Défaitiste.
Ouais. Vraiment défaitiste, oui, quand même. Il reste que 2 journées, il pourrait être quand même un peu plus positif. Bah, là, j'ai l'impression quand même, il a un peu abdiqué sur cette 3e place déjà presque. Donc, moi, je les vois pas faire le 6 sur 6.
Mathieu?
Et donc, vous pensez réellement autour de cette table que Éric Roy tient ce discours dans le vestiaire avec les
bien
joueurs,
sûr que non.
En disant bon les gars, c'est bien, on finira 4e ou 5e, eh, c'est déjà bien, on est le Stade Brestois, on va jouer la Coupe d'Europe.
Le problème, c'est que ça se voit aussi sur le terrain.
Évidemment, ils sont dans le dur, c'est certain. Ils perdent Les Melou et Del Castillo, qui sont de vraies pertes. Maintenant, ils ont montré des ressources mentales et pas plus tard que la semaine dernière contre Rennes, où ils retournent le match de façon incroyable, alors qu'ils perdent 2-0, je crois, après 7 minutes.
Ça, si pas fois,
ça ne marchera pas à chaque fois, mais il reste 2 journées finalement pour eux, quoi. Alors, je dis pas que, encore une fois, et comme on l'a dit, hein, Lille a son destin entre les mains, et s'il y a 3 victoires, Brest pourrait faire 6 sur 6, que ça changerait pas grand chose. Mais je dis attention, on n'enterrons pas Brest trop tôt. Certes, ils sont dans une mauvaise passe, mais il reste 2 journées sur 2 équipes abordables. Et je pense que le discours d'Éric Roy dans le vestiaire, je pense qu'il fait dégonfler la pression populaire en dehors, autour de la Ligue des Champions, le Stade Brestois, etc., en disant hey, on est le Stade Brestois quand même, hein, on va pas oublier d'où on vient. Mais que dans le vestiaire, s'il y a moyen d'aller accrocher la 3e place, les gars, c'est la Ligue des Champions assurée et c'est quand même pas la même que la 4e. Quoi.
Et donc, après, sur les fins de saison, n'oublions pas aussi, ça peut être un élément à prendre en compte, hein, les notions de dynamique, en fait. On a Monaco qui reste sur 5 victoires en 6 matchs, Lille 4 victoires en 5 matchs et Brest un seul succès sur les 4 derniers matchs. Donc on va voir comment tout ça va se passer. Alors là, je repense à un truc parce qu'on l'a pas reprécisé, mais c'est important, il vient de le redire, parce que les gens doivent nous dire « Non mais attendez, mais moi j'ai regardé le classement, on me dit que les 4 premiers sont qualifiés pour la Ligue des Champions. Pourquoi vous me faites ce débat ? Oui, il faut aller chercher la 3e place. On pourrait se contenter de la 4e place. Mais non, il faut quand même l'éviter.
Bah, la 4e place, c'est un tour de barrage et un tour préliminaire en plus.
Deux tours de qualif. Ouais.
C'est la 3e place actuelle, en fait.
Ouais, c'est vraiment pas un cadeau. C'est pas un cadeau. Et franchement, alors j'ai rien contre Brest, mais pour le foot français, ce serait mieux d'avoir Lille, Monaco 2 et 3 et Brest en tour préliminaire. Parce que je ne les vois pas passer et qu'ils feront une belle campagne de Ligue Europa l'année prochaine. J'espère qu'on ne nous écoute pas en Bretagne.
Si, on peut. On peut nous écouter sur le site de, ici, sur l'application ici. Ouais, c'est vrai que ça c'est hyper important. Mais après, il y a cet adversaire du soir, cet adversaire lyonnais, Mathis Caron. C'est l'une des meilleures équipes avec le Paris Saint-Germain depuis quelques semaines. J'ai plus la stat là sous les yeux, mais c'est une équipe qui cartonne en 2024 avec Pierre Sage. Donc attention, elle vient, elle aussi pour pourquoi pas aller décrocher son billet européen aujourd'hui.
Oui, c'est un peu des revenants. Ils ont fait une première partie de saison catastrophique, je pense qu'on peut le dire.
5 victoires sur les 6 derniers matchs. Ils étaient derniers en décembre après la défaite à Bollard, 3-2.
C'est ça, et finalement avec l'arrivée de Pierre Sage et puis quelques ajustements au mercato, on a tendance à dire que le mercato a tout changé pour Lyon, mais finalement quand on regarde le 11 de départ, il n'y a pas tant de changements que ça par rapport au début de saison. Et oui, ils viennent avec des intentions, ils ont réussi à faire une super remontée, ce serait bête de s'arrêter maintenant. Mais bon, après globalement, Lille s'en sort souvent très bien à domicile, ils sont invaincus depuis 17 matchs à domicile, c'est une stat qui est assez folle. Et puis globalement, Lyon, c'est un club qui réussit plutôt bien en Lillois. On va espérer que la dynamique se poursuive. Vous l'avez précisé, il y a l'absence d'André, mais on a bien vu que Ben Taleb avait fait un super match contre Metz il y a la semaine dernière.
Et quand Angel Gomez n'était pas là, ça tournait aussi.
Donc c'est pas une absence qui m'inquiète vraiment pour le LOSC, et je pense qu'ils peuvent aller chercher les 3 points ce soir.
Et on a un porte-bonheur. On a un porte-bonheur. C'est Mathieu Dervaux qui va commenter ce match. Parce que la vraie statistique, parce que je peux vous dire que Lille a pris 36 points à domicile. C'est la meilleure équipe à domicile cette saison en Ligue 1. Que Lyon est l'équipe qui compte le plus de victoires en Ligue 1 en 2024. 9 victoires, 1 nul, 4 défaites. Mais la vraie stat, c'est la vôtre, Mathieu.
Et ouais, 16 matchs de commenter du LOSC depuis 2 ans et pas une seule défaite au compteur. Voilà. Donc j'espère.
Mais il nous faut une victoire.
Écoutez, vous commencez à en demander beaucoup. Je vous garantis. L'absence de défaite, déjà. Bon.
Ok.
Mais j'ai peur de, à force de trop parler de cette statistique, qu'on finisse par conjurer un peu le.
Ah, bah, au bout d'un moment.
Le karma, quoi.
Non, mais elle va tomber, elle va tomber.
On se rapproche. Si c'est possible, pas ce soir. Ça nous arrangerait tous. J'avais commenté Lille-Lyon l'année passée et on s'était fait reprendre sur le fil, 3 partout avec 2 buts dans les 5 dernières minutes. Je signe pas pour ce scénario ce soir, hein, je vous le dis tout de suite.
Yann Duplat pour conclure sur le sujet.
Mais Lyon joue pas tout ce soir parce qu'ils ont une autre chance pour aller en Coupe d'Europe, c'est la finale de la Coupe. Il a joué contre Paris, ici au stade Pierre-Mauroy, donc ils vont prendre leur marque ce soir pour jouer contre Paris, et c'est un match d'échauffement ce soir.
Et on rappelle que Lille peut faire un petit cadeau à Lens ce soir,
aussi,
en battant Lyon.
Bah, il sortirait quasiment Lyon de la lutte pour la 6-7e place avec Lens, parce que là actuellement Lyon est à 5 points.
Exactement.
S'ils perdent ce soir, ils seraient toujours à 5 points de Lens, et il ne reste plus que 2 matchs, donc ce serait... quasiment impossible pour eux de revenir sur Lens.
Allez, on parle du Racing Club de Lens à la lutte avec Marseille, Lyon et Rennes. La course à la 6e place et la 2e thématique de Tribune Nord avec Mathis Caron, Yann Duploy et Mathieu Dervaux.
Tribune Nord, toute l'actualité des 100 et or en direct sur France Bleu Nord. Sylvain Charlet.
Et on a vécu cette victoire avec Baptiste. Bastien Ducrot, c'était vendredi soir. Il me pardonnera, Bastien Ducrot, commentaire de ce match aux côtés d'Adrien Bré.
David Perrin d'Acosta, faut écarter sur la gauche, faut la donner, voilà qui est fait. Adrien Thomasson, et Perrin d'Acosta, superbe! Le 1-2 entre les deux joueurs, et derrière, David Perrin d'Acosta, avec son pied droit.
Quand on mène 1-0, et que là, ça faut être vraiment très, très sûr de soi pour continuer à maîtriser. Et ça, c'est pas notre cas. C'est parce que notre saison, elle est comme ça, parce que nos derniers résultats sont ceux que vous connaissez. Mais c'est une équipe qui commence pas le match en doutant.
Voilà, ça. Est-ce qu'on peut dire que ça a été un peu poussif face à Lorient, Mathieu Dervaux, vendredi?
Oui, comme ça l'est depuis quelques temps au Racing quand même. On va pas se mentir, les deux derniers mois sont pas flamboyants dans le jeu. On peut pas dire qu'on se régale tout le temps en voyant le Racing, mais l'essentiel a été fait contre une équipe qui est quand même, qui se dirige quand même tout droit vers la Ligue 2. Hein, on va pas se mentir, ils y vont tout droit. Ils ont fait le boulot comme on dit, c'est-à-dire que c'était pas forcément flamboyant. On sent l'équipe, je trouve personnellement fatiguée. En tout cas, ça fait plusieurs semaines qu'on sent que ça tire sur la corde, comme on dit, et que entre la Ligue des Champions, ensuite il y a eu la Coupe d'Europe avec Fribourg.
J'ai l'impression qu'il y a eu un avant et un après Fribourg. On en a déjà parlé plusieurs fois, mais il y a vraiment un avant et un après.
Je trouve que dans les intentions, en tout cas, on sent une équipe fatiguée qui a des fois du mal sur le replacement, sur le pressing, où on sent une équipe qui est tout simplement un peu qui a hâte. Pour le coup, on parlait tout à l'heure de Brest et d'Éric Roy qui dit on a hâte d'être en vacances. Je pense qu'au Racing, le discours est peut-être pas tenu comme ça, mais intérieurement, je pense que les joueurs ont aussi hâte de pouvoir passer une intersaison à souffler. Mais le travail est fait, et honnêtement, pour la Coupe d'Europe, je pense que le le plus dur a été fait pour s'assurer cette sixième place, vu l'écart au classement, une dernière rencontre à domicile contre Montpellier.
Mais il faut aller à Rennes.
Il faut aller à Rennes, ça peut relancer un peu le suspense, mais Rennes est quand même actuellement à 7 points de Lens. Hein.
En fait, je rappelle, on l'évoquait à l'instant avec Yann, Lens 49 points, Marseille 44 points, mais Marseille qui a un match en moins, Lyon 44 points, le match en moins de ce soir, et Rennes 42 points. Donc ça veut dire qu'en effet, si Lille bat Lyon ce soir, c'est quand même un candidat qui est clairement écarté et il y a la potentielle 7e place européenne. Donc ce soir, une victoire de Lille face à Lyon pourrait vraiment, clairement, bah, quasiment valider la qualification européenne des Lensois à deux journées de la fin, Yann.
Oui, tout à fait. Ouais. Et puis Lens, on n'en parle jamais, mais ils peuvent encore regarder au-dessus aussi. Hein. Ils sont que 2 points derrière Nice. Nice a un match en retard, c'est contre Paris. On peut considérer qu'ils ne vont pas battre Paris deux fois cette saison parce que Nice est la seule équipe qui a battu Paris. Donc je pense que les Parisiens ne voudront pas se faire battre une deuxième fois par Nice. Du coup,
Ah, il y a peut-être un joker en plus.
Ouais, ouais. Et puis, Lens peut aller chercher une 5e place sans que ce soit une honte par rapport à leur parcours.
Mais ce qui est intéressant.
Mais c'est sûr, tu parlais de dynamique tout à l'heure, la dynamique lensoise n'est pas hyper positive. C'est pour ça que personne n'en regarde vers le haut, je pense.
Mais pourtant, ils s'accrochent. Parce qu'en effet, il y a eu des matchs difficiles. Il y a la défaite à Metz. Il faut battre Clermont 1-0. Là, face à Lorient, on a le même scénario qui dure assez longtemps. Mais voilà, ils sont là, ils gagnent le match. Mathis.
Ouais, finalement, ils s'en sortent bien. Et puis, je pense que. Maintenant qu'il reste que 3 matchs, il faut plus vraiment regarder la manière et plutôt regarder le bilan comptable. Et il est plutôt bon avec cette victoire contre Lorient. Dans la manière, c'est vrai que ça n'a pas été terrible. Il y a eu cette utilisation de la VAR qui a été un peu...
Il faut parler des heures arbitrales en plus.
Il faut qu'on y revienne, on va y revenir ça. Ouais,
c'était un peu spécial et ça a bien aidé les Lensois. Il y a eu aussi les ratés de l'Orienté. Bamba doit s'en vouloir, je pense, l'attaquant l'Orienté. Puis il y a eu également les buts lensois sont un peu donnés par les Bretons également, mais bon, comme je l'ai dit, la manière, est-ce que c'est vraiment ce qu'il faut retenir en ce moment? On verra ça plus tard. Là, il reste 2 matchs avant la fin de saison, il faut les gagner, et puis pourquoi pas les regarder au-dessus. On l'avait dit, Nice doit jouer contre Paris, doit jouer contre Lille aussi dans le Nord. Donc on peut imaginer qu'ils vont lâcher des points, donc tout est encore possible pour Lens.
Je rappelle, sur ces 2 dernières journées, Lens doit aller à Rennes et va recevoir Montpellier. Mais c'est vrai que parlons un petit peu, Yann, de cette erreur d'arbitrage à la 60e minute. L'arbitre de la rencontre siffle une faute qui n'existe pas dans la surface de réparation lensoise, alors que l'action se termine sur un coup de pied arrêté et les Lorientais marquent. Et là, à ce moment-là, on s'est tous demandé, mais qu'a-t-il sifflé? Et après, en revoyant les images... Bon, on se demande toujours pourquoi il a sifflé.
Personne ne le sait. Ne le sait aujourd'hui. Ni l'Orienté, ni les Lensois, ni l'arbitre lui-même, peut-être, je sais pas.
Il a repris son souffle.
Mais je comprends pas. C'est pas, ce week-end a été testé la sonorisation donc de l'arbitre, qui va peut-être arriver plus tard dans le championnat. Moi, je prône à 1000% pour ça. Mais en même temps, si l'arbitre n'explique pas ce qu'il siffle, la sonorisation, elle sert à rien, en fait.
C'est ce qui va se passer. On saura avec la sonorisation. Il va nous expliquer. On va y revenir après 18h30. Hein. Faites le débat avant le débat.
Ouais. Il a refusé d'expliquer, en fait. C'est ça le truc. Les Lorientais disent, on sait pas ce qu'il a sifflé. Il va pas nous le dire.
Il a pas voulu leur dire,
Le problème est là.
Ouais, voilà.
Qu'est-ce qui se passe, quoi? Pour qu'il le cache? Il assume pas son erreur ou?
Ouais, parce qu'il y a un arbitre, là, l'arbitre du match de Metz qui a expulsé Mikotadze. Il a revu les images à la VAR, il a confirmé son carton rouge, mais aujourd'hui, il a dit « Ah, mais à coup de pas, je me suis trompé ». Bon, c'est un peu tard, mais il revient dessus. Bon, après, et la suspension devrait être annulée.
Ouais, c'est ça, le rouge devrait être annulé. Ouais. Mais là, en l'occurrence, le but, il ne va pas être accordé à Lorient a posteriori.
Non, ça c'est sûr.
Pour moi, c'est un vrai tournant du match, en plus.
Ouais, ça fait un zéro à ce moment-là.
Comme lors de Lille-Monaco, quand on oublie ce penalty, parce que là, la semaine dernière, moi, personnellement, c'était mon coup de gueule, j'en ai parlé, parce que je trouvais que c'était une erreur d'arbitrage qui peut coûter quelques millions d'euros, et les dirigeants lillois sont restés très calmes. Et là, on peut comprendre la colère des Lorientais, Mathieu Darbois.
Ouais, tout à fait. Mais moi, je rejoins entièrement Yann sur l'ensemble de ses propos. Je partage 100% l'avis sur la sonorisation, mais je trouve que le problème, c'est que l'arbitre ne vient pas s'expliquer, et le directeur de l'arbitrage...
C'est le débat d'après. Hein. Allez, je ferai plus court après.
Bon, d'accord. Mais le directeur de l'arbitrage, quand même, Anthony Gauthier, nous a dit, répété, que les arbitres avaient désormais le droit de s'exprimer au micro, que c'était même encouragé. Quand à une époque c'était cloisonné.
Ouais, mais tout ça c'est cadré.
Ouais, mais moi à la fin de match, moi ce que je veux, j'ai vu, alors ça remonte à plusieurs semaines, mais je vois, il me semble que c'est M. Bastien qui arbitra d'ailleurs ce soir, qui était.
Après le classique.
Exactement. À PSG Marseille, il y a 2-3 situations plus ou moins litigieuses. J'ai souvenir qu'il vient chez nos confrères de Prime Vidéo, il vient au micro et il explique. Il dit « j'ai pas sifflé ça pour telle, telle raison, j'ai sifflé ça pour telle, telle raison ». Moi, ça me pose pas de souci. Après, on est d'accord, on n'est pas d'accord. Et encore une fois, que l'erreur est humaine et que moi, l'arbitre vienne me dire « écoutez, j'ai sifflé ça, je reconnais qu'après avoir vu les images, ok, j'aurais pas dû ». Bah, j'en veux pas à l'arbitre, c'est tout. Alors, les joueurs font tous des erreurs.
Mais c'est vrai que c'est intéressant. Cette séquence avec Benoît Bastien, elle est hyper intéressante.
Elle est hyper intéressante.
On a le droit de pas être d'accord, mais il explique.
Et elle a, je trouve, tué dans l'œuf derrière toute polémique qui aurait pu découlé du classique, qui du coup n'ont pas eu lieu parce que il a expliqué. Alors il y a eu les pros, les anti, ceux qui étaient d'accord, pas d'accord, mais personne n'a pu dire l'arbitrage, je comprends pas, c'est n'importe quoi. Il y a eu une explication et je trouve que en l'occurrence, Lance Lorient, l'arbitre vient expliquer, il vient de dire à la fin, je me suis gouré, j'ai sifflé trop tôt parce que j'ai cru que finalement il y a pas eu faute. Le but, bah j'aurais dû le valider, mais à partir du moment où j'avais sifflé, je pouvais plus. Enfin bref, il m'explique par A plus B. Ben c'est clair. Et à partir de là, fin de la polémique. Dommage pour Lorient, mais fin de la polémique.
On va en reparler dans quelques instants de cet arbitrage. Mathis Caron, Yann Duploy et Mathieu Dervaux sont réunis ce soir. Je vous pose la question du jeu pour remporter le ballon Kipsta Décathlon. Je vous rappelle d'une valeur de 80 €. Je vous le rappelle, hein, c'est aujourd'hui l'anniversaire de l'ouverture du tunnel sous la Manche, les 30 ans. Donc, question qui concerne le football nordiste et le football anglais. C'est assez récent, c'est d'actualité. Donc vous appelez au 03 20 55 89 89. Ahmed attend votre appel. Quel club anglais a mis fin au parcours de Lille en Ligue Europa Conférence? C'était au stade des quarts de finale. J'ai trois propositions pour vous. Aston Villa, Brighton ou Ipswich Town. Aston Villa, Brighton ou Ipswich Town. Quel est le club anglais qui a mis fin au parcours de Lille en Ligue Europa Conférence? A gagné le ballon d'une valeur de 80 €, le ballon officiel de la Ligue 1 fourni par la marque Kipsta Décathlon, c'est chez nous.
Le festival Vacances à Gardincourt est de retour du 8 au 20 mai à la Cité des Électriciens à Bruay-la-Buissière. Géants, fanfares, majorettes, théâtre de rue, admirez aussi un spectacle aérien époustouflant, un défilé de haute couture et de nombreuses autres surprises pour petits et grands. Vacances à Gardincourt, c'est gratuit et c'est du 8 au 20 mai. Programme sur citedesélectriciens.fr.
La magie musicale d'Harry Potter avec un invité vedette des films. Profitez d'une soirée fantastique avec The Magical Symphonic Orchestra et son chœur, des illusions magiques et la musique la plus merveilleuse des compositeurs oscarisés. Le 7 mai au Kursaal de Dunkerque. Le 10 mai au Théâtre Sébastopol, Lille.
Quand vous écoutez France Bleu, vous n'êtes pas n'importe où. Vous êtes chez vous. France Bleu, au cœur de nos régions, de nos villes, de nos villages. France Bleu Nord, ici, on parle d'ici.
Et on regarde la route à 18h30 avec Serge à la cellule de vigilance routière de la préfecture. Bonsoir Serge.
Bonsoir Philippe, bonsoir à tous.
On fait une petite synthèse sur nos routes.
Eh bien écoutez, c'est plutôt correct à cette heure-ci. On n'a plus d'accidents, plus de véhicules en panne, pas d'incidents à vous signaler. Reste quelques bouchons, densité résiduelle sur l'autoroute A22 entre Roncq et Bondu en direction de Lille. Sur les 5 voies de l'autoroute A1 jusque Léquin en direction de Paris, on a petit bouchon de 2 km. Également la traversée de Villeneuve-d'Ascq sur la partie haute, juste après la courbe de Babylone jusqu'au centre commercial, c'est plutôt chargé. Et puis on a la nationale 41, secteur de Fourdan-Web en direction de Labassé, également assez chargé. Et puis partout ailleurs, eh bien écoutez, ça roule plutôt correctement.
Très bien. Merci pour ce petit point route indispensable. Bonne soirée Serge.
Bonne soirée.
Et à demain depuis la cellule de vigilance routière, exactement, la préfecture. Allez, c'est reparti, deuxième partie, deuxième période, deuxième mi-temps évidemment de Tribune Nord, Sylvain, Charlet, toute l'équipe jusqu'à 19h.
France Bleu Nord, 100% foot, Tribune Nord sur France Bleu Nord.
Alors, dans cette deuxième demi-heure, on va revenir sur cette fameuse sonorisation des arbitres qui a débuté un peu, pas par un flop, mais par un match où il n'y a pas eu d'intervention de l'arbitre avec la VAR. Donc, on n'a pas eu le droit aux interventions de l'arbitre. C'était lors de la finale de la Coupe de France féminine entre le PSG et le Paris FC. Et il y aura une nouvelle expérimentation le week-end prochain, le 12 mai, pour les play-offs du football féminin. Et là aussi, on va y revenir dans un instant. On va aussi parler de ce chiffre de la semaine, 4, comme le nombre de Lillois qui seront à la fête la semaine prochaine lors des Trophée UNFP, Lenny Yoro nommé dans les meilleurs jeunes, Lucas Chevalier meilleur gardien de Ligue 1, Paulo Fonseca meilleur entraîneur et Don Zegrova meilleur joueur de Ligue 1. C'est un des éléments qui a beaucoup fait parler. On reparlera également d'Eli Wahi qui a enfin retrouvé le chemin des buts, sans oublier la Ligue 2, Dunkerque et le maintien qui se rapproche.
Tribune Nord, le buzz des réseaux.
Et on est tout au long de la soirée avec Mathis Caron, Yann Duploit et Mathieu Dervaux. Et n'oubliez pas qu'à partir de 20h, on se retrouvera en direct du stade Pierre-Mauroy pour le match de 21h entre Lille et Lyon. Vous appellerez là aussi Ahmed au 03 20 55 89 89 pour réagir tout au long de la soirée. Je disais, on parle de la sonorisation des arbitres, les expérimentations des buts.
Le face-à-face avec Minamino, il le dribble, il rentre dans la surface, faute.
Alors, j'avais pour vous en effet un petit extrait de l'arbitrage, on va le diffuser, c'est pour moi, c'est une erreur de ma part. Vivien, on va diffuser cet extrait, j'en parlais tout à l'heure, c'était la faute sur le Lillois Thiago Santos de Minamino lors de Lille-Monaco la semaine dernière, et ce pénalty oublié a coûté pourquoi pas l'occasion de faire match nul sur la pelouse de Monaco.
Le face-à-face avec Minamino, il le dribble, il rentre dans la surface, faute.
Faute de Minamino, monsieur l'arbitre, non, corner. Il lui met un petit pont, ah il y a faute, il y a pénalty. Non mais il y a pénalty, joue pas le ballon, monsieur l'arbitre. Monsieur Turpin, mais non, monsieur Turpin, qu'est-ce que vous faites là? La VAR, où est la VAR? Que dit la VAR? Que fait la VAR? Non mais monsieur Turpin, mais c'est pas possible. Adrien, vous allez me dire ce que vous en pensez, on va suivre le corner de Zegrova, mais c'est pas possible. Non mais Adrien, on est d'accord, Minamino il joue jamais le ballon. Mais c'est incroyable, mais que se passe-t-il à la VAR? Mais il est pris sur le petit pont, il est en retard. Rassurez-moi Adrien, je suis pas à côté de la plaque. Il y a clairement pénalty, il y a grosse faute de Minamino sur Thiago Santos.
Sur Thiago Santos, bien sûr, oui.
C'est incroyable, non mais c'est hallucinant, mais où va le football en fait? Moi j'étais pour la VAR, mais là sur ce genre de cas, au bout d'un moment on peut plus les défendre, les mecs dans la VAR là. Vous faites quoi en fait les gars? Mais sonorisez-moi ça, moi je veux entendre, est-ce qu'on l'a appelé?
Bon voilà, en tout cas moi j'ai besoin de sonorisation. Mais c'est vrai que désormais ça rend dingue Yann Duploit de se dire. On nous a prévu la sonorisation des arbitres. On a hâte de vivre ces expérimentations. Moi, j'ai hâte de vivre ça ce week-end, le week-end prochain sur le foot féminin. Et puis le 25 mai, où là, on aura la finale de Coupe de France. Parce que là, ça manque. J'ai envie d'entendre Clément Turpin.
Ben ouais, la VAR n'est pas complète, en fait, avec ce manque-là. Parce qu'on ne sait pas ce qui se passe. Encore une fois, peut-être que M. Turpin se dit, moi, j'ai rien à me reprocher, il n'y a pas faute. Peut-être que la VAR se dit aussi, en effet, il n'y a pas d'erreur manifeste. Mais au moins qu'on l'entende, quoi. Au moins qu'on l'entende. Non, je t'appelle pas, il n'y a pas d'erreur.
Après, là on n'entendra pas la VAR.
Mais qu'on
dans l'expérimentation. On entendra l'arbitre expliquer pourquoi il a pris sa décision.
S'il explique qu'il change d'avis, c'est qu'il y a eu la VAR entre deux, parce qu'il ne va pas changer d'avis comme
ça. Moi, j'ai envie d'entendre les échanges entre la VAR
comme
et le central.
Comme voilà, rugby, ouais. C'est ça, on en parle souvent. Le rugby, pour le coup, c'est vraiment un bon exemple. Et en plus, il y a une vraie discussion entre la VAR et l'arbitre au rugby. Et à chaque fois qu'il y a une hésitation, c'est décision terrain. Donc, c'est l'arbitre qui finalement prend la décision. Donc, c'est exactement ça qu'il faut faire. Prenons exemple sur le rugby.
Parce que pour l'instant, c'est une bonne première étape. Mais moi, je suis un peu frustré. On me dit, non, tu vas pas entendre les échanges, tu vas juste entendre la décision finale. Bon, c'est une avancée, Mathieu Dervaux, mais c'est lent.
C'est lent. Alors, il y a plusieurs choses. Je sais que c'est pas le calendrier voulu par l'arbitrage français, qui est plutôt du genre proactif, qui aurait envie d'accélérer les choses et qui se fait freiner par la FIFA. Monsieur Gauthier l'a déjà dit plusieurs fois.
Un bailleulois, évidemment.
Mais il a déjà dit plusieurs fois, le calendrier de la FIFA est pas totalement le même que l'arbitrage français en termes de délai, de validation, etc. C'est la première chose. Mais moi, il y a une chose que j'aimerais comprendre. Monsieur Gauthier nous a déjà dit plusieurs fois qu'il incite les arbitres à aller voir l'écran, même s'ils sont sûrs de leur choix, pour justement dissiper le doute qu'il peut y avoir sur le terrain, et justement en disant, écoutez, je viens moi-même d'aller voir les images, je vous confirme que pour moi, il n'y a pas faute. Point. C'est tout, on continue. Basta. Mais non, moi j'ai du mal à croire qu'une faute, pour revenir sur la faute de Thiago Santos, où vous emballez tout à l'heure, que si Monsieur Turpin va voir l'écran. Alors je veux entendre Monsieur Turpin, après avoir vu l'écran, m'expliquer. Non, il n'y a pas faute. Il lui tire le maillot, il lui arrache le maillot, mais c'est normal, c'est autorisé. Ah, et puis il fait un tac de pied décollé, c'est autorisé. Mais et il lui prend le genou, c'est autorisé.
Vous savez que j'ai discuté avec d'autres confrères. Normalement, un journaliste est neutre. Enfin, moi, je me pensais neutre sur ce coup-là. Et beaucoup de mes confrères qui suivent Monaco, par exemple, non, Sylvain. Que les gens de la com de Monaco me disent, je peux comprendre. Mais là, non, mais c'est pas possible. En fait, au bout d'un moment, faut être journaliste.
Le tirage
neutre,
de maillot est monstrueux avant lancer le tag. Il s'accroche à lui. Et ensuite, le tag, je vais dire rugueux pour être très gentil. Mais déjà, le tag, sans le tirage de maillot,
à hauteur du genou.
Du genou dans la surface, il est limite. Et en plus, on rajoute le. Enfin, voilà, c'est tout. Mais moi, ce qui me manque, c'est l'échange.
Mais on a l'impression qu'ils ne veulent pas.
Et du coup, ça laisse place à plein d'interprétations. Ah, monsieur Turpin est protégé. Ceci, ce ça. C'est vrai, c'est faux. Je n'en sais rien. Je suis pas dans les sphères de l'arbitrage.
Mais c'est vrai que moi, j'ai
laisse le doute. Voilà, et c'est ça le problème.
Et ça crée des débats, Mathis Caron, parce que avant ce match, j'avais lu un article qui racontait qu'en gros, sous couvert d'anonymat, que Clément Turpin, était un des ponts de l'arbitrage français et que quand on était à l'arbitrage vidéo, c'était compliqué de dire à Clément Turpin, Clément, je pense que tu t'es peut-être trompé.
Et c'est pour ça que la sonorisation, ça pourrait régler ce genre de soucis, parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, pour le public et pour globalement tout le monde, l'arbitre, c'est un espèce d'être froid, un peu, on sait pas un peu ce qu'il pense, on a du mal à l'humaniser. Et du coup, peut-être que l'entendre, ça permettra de se mettre à sa place parfois et de comprendre certaines erreurs. Parce que comme on l'a dit, c'est vrai que depuis que la VAR a été instaurée, on est 100 fois plus frustré quand il y a une erreur d'arbitrage. Du coup, on a besoin d'explications. Et oui, quelqu'un comme Clément Turpin, on a tendance du coup à le voir comme ce qu'il n'est pas peut-être, enfin une espèce de quelqu'un qui est peut-être corrompu ou un être froid.
J'ai bien aimé ce qu'il n'est pas peut-être, hein, quand même.
Non, mais voilà, ce serait bien d'humaniser les arbitres. Après, est-ce que ça va...
Après, Benoît Bastien, sur le plateau de Prime Vidéo, après le classique, quand il s'exprime, j'ai l'impression que c'est le prof d'école. Je sens qu'il est stressé aussi, qu'il n'est pas habitué à la prise de parole.
Ce sera l'habitude d'apprendre, évidemment.
Et en gros, le gars ne sourit pas. Il y a un vrai travail de fond à effectuer pour nos arbitres.
On part de très loin, c'est sûr. Mmh. Mais déjà, entendre leur voix et les voir plus communiquer, ça pourrait déjà aider à casser cette barrière. Il y a vraiment une barrière entre le public du foot français et les arbitres. Ça, il faut le dire. Après, est-ce que ça va tout régler? Je ne pense pas, parce que... Là, aujourd'hui, on débat des décisions d'arbitrage. Demain, on discutera des justifications de leurs décisions.
Oui, mais ça peut calmer le jeu. Moi, j'ai le souvenir, dans la radio où je travaillais auparavant, on travaillait avec des arbitres, Pascal Garibian, Alain Sars, qui venaient passer les soirées de grands matchs avec nous. Et ils nous expliquaient... Il n'y avait pas la VAR encore, hein. Ça remonte un peu. Il n'y avait pas encore la VAR. Et le fait d'avoir un arbitre face à toi, qui est quand même une référence, qui te dit, tu vois, c'est comme ça... Et ben là, parfois tu te dis, ah ouais, j'aurais peut-être dû lire le règlement avant. Et souvent, je pense que ça peut calmer.
Moi, je voulais reparler de l'exemple du rugby, parce qu'en fait, il y a un autre truc qui m'embête dans la VAR, c'est que c'est l'arbitre VAR qui appelle l'arbitre du terrain pour dire, attends, il y a un truc qui est pas clair. Au rugby, ça va dans les deux sens, en fait.
Ouais.
Quand l'arbitre terrain a besoin de vérifier, il demande à l'arbitre vidéo de vérifier, et inversement, l'arbitre vidéo voit une erreur d'arbitrage, il appelle l'arbitre du terrain. Et en fait, dans le foot, encore une fois, on ne fait pas comme les autres, parce qu'on est... un sport qui est au-dessus des autres, sans doute, où les arbitres sont meilleurs que dans les autres sports. Mais en fait, encore une fois, la VAR n'est pas complète sans la sonorisation.
Mathieu Dervaux, pour conclure ce débat.
Oui, bien sûr. Il y aura toujours, de toute façon, je repense à ce qu'a dit Mathis, il y aura toujours des discussions, et on en parlait sur le tac tout à l'heure de Santos, et entre collègues, on n'est déjà pas forcément tous d'accord.
Exactement.
Mais moi, qui ai une explication, moi je peux comprendre que l'arbitre, il me dise, il me justifie, et j'ai un exemple qui n'est pas sur une faute, mais on prend Lille-Aston Villa quand Martinez prend le jaune pendant la séance de pénaux. Moi, je vois le match, pour vous raconter ma vie, je suis dans les DVE à ce moment-là, je suis derrière le but à ce moment-là.
Ah, vous êtes supporter du LOSC?
J'étais voir le match avec les DVE. En tout cas, j'ai été voir Lens-Le Havre. Ça, vous n'en avez pas parlé, mais bon, écoutez, tant pis.
Avec les supporters de la Marec.
Voilà, exactement.
Ça va, ça s'équilibre.
Ça s'équilibre. Mais derrière le but, tout le monde est fou. Deuxième jaune, il prend pas de rouge, mais quelle honte, mais comment ça se fait? L'arbitre lui a retiré le jaune, mon Dieu, qu'est-ce que c'est? Enfin bref, je vous épargne d'autres propos. Et finalement, on découvre qu'il y a une règle qui dit que penalty, ça remet les compteurs à zéro, et que, en fait, juste il a pris un deuxième jaune, oui, mais le jaune n'est pas compté avec le match, et fin du débat, du coup. Du coup, tout le monde s'est enflammé sur. Et j'imagine, et forcément, c'est une règle un peu spéciale qu'on n'a pas à faire tous les jours le deuxième carton pendant la séance de pénaux, mais d'un coup, si on explique les choses, il y a déjà une paire de problèmes qui se résolvent.
Et les gens pêchèrent leur place au stade, Yann,
foot
pour
américain,
surconclure.
Foot américain, basket américain, les arbitres ont un micro, ils disent « là j'ai sifflé ça, il y a faute pour ça, j'ai jeté le drapeau parce qu'il y a ça ».
Mais ça fait partie du show en plus.
Mais ouais, en plus. L'arbitre, c'est aussi des stars.
Il est indispensable, faut pas l'oublier, sans lui il n'y a pas de match.
Allez, on va maintenant voter pour nos joueurs de l'année.
Tribune Nord, le chiffre de la semaine.
Et le chiffre de la semaine, c'est 4, comme le nombre de Lillois qui sont convoqués à la fête des trophées UNFP la semaine prochaine. Lenny Yoro, Lucas Chevalier, Paulo Fonseca et Edon Zegrova. Alors, Eleni Yoro va postuler pour le titre de meilleur jeune avec Ben Seguir, le monégasque, Cherki, le lyonnais, je ne sais pas ce qu'il fait là lui, Doué, le rennais, Zaïre Emery, le parisien. Chez les gardiens, il y a le Brestois Bizot, il y a le Niçois Bulka, donc Chevalier et Samba, et le parisien Donnarumma. Chez les entraîneurs, Paulo Fonseca avec Luis Enrique, Luca Elsner, Francaise et Eric Roy. Et pour les joueurs de Ligue 1, et on va en parler d'abord de ça, Aubameyang, Dembélé, Lesmelou, Mbappé et Zegrova. Et c'est vrai que beaucoup de gens se sont dit, et on en parlera, on l'entendra tout à l'heure après 20h, même Paulo Fonseca s'est dit, bon, sur le ton de la blague, il a rien à faire là en fait, Mathieu Dervaux.
Ouais,
bah, Qu'est-ce qu'il fait là, Zegrova?
Il fait là parce qu'il fait déjà une très belle saison, faut pas l'oublier tout de même, malgré tout, Eden Zegrova.
Il a le meilleur stat, il reste irrégulier, mais il a le meilleur stat.
Exactement, alors il est, je trouve, un peu plus dans le dur dans cette deuxième partie de saison, mais il a clairement porté l'attaque du LOSC au moment où Jonathan David était porté disparu en début de saison, c'était lui le fer de lance. Ça s'est un peu inversé depuis, Joe David a repris, on va dire, ses stats habituelles avec le LOSC quand Zegrova est revenu un peu plus dans l'ombre. Mais il est là aussi parce que, quand vous regardez, il y a quatre attaquants et un milieu de terrain, et... Moi, ce qui m'interroge quand je vois cette liste, c'est pourquoi un Lucas Chevalier peut pas être dans les 5 meilleurs joueurs de Ligue 1.
Parce
qu'il est gardien, ouais. Il fait une saison incroyable, Lucas Chevalier. J'ai dit Chevalier comme,
voilà. Ça pourrait être Benjamin André ou Nabil Bentaleb.
À Lille, et ça pourrait être d'autres, un Brendan Chardonnay avec Brest, qui, avec une défense ultra solide, amène Brest peut-être en Ligue des Champions. Est-ce qu'il a pas plus sa place que même, un Dembélé? Qui est un fantastique joueur, je paie ma place au stade pour voir des joueurs comme Dembélé, mais qui a raté d'innombrables face à face, qui a mis un but cette saison en Ligue 1, enfin je veux dire, pour un ailier offensif.
Mathis Caron.
Moi je trouve qu'on pourrait citer plusieurs Lillois avant Zegrova quand même, je pense à Benjamin André, Jonathan David, peut-être même Lucas Chevalier, on l'a dit, et oui c'est vrai que pas voir David même dans les nominés alors qu'il est deuxième meilleur buteur de Ligue 1, ça peut surprendre un peu, je trouve. Mais il faut dire aussi que Zegrova, il est là aussi parce que c'est un peu la tête d'affiche du LOSC cette année. Il a un certain charisme, c'est le joueur frisson, c'est celui qui a fait le plus de dribbles en Ligue 1. Quand on va voir un match du LOSC, on veut voir Zegrova. C'est un peu ça, c'est un peu la star de l'équipe cette année, il faut le dire. Alors que Jonathan David, c'est plutôt, il fait ses stats, hein, mais c'est pas un joueur qui est extraordinaire à avoir joué.
On s'était dit dernièrement, quand a-t-il marqué un but spectaculaire? Mais en fait, non, c'est un renard des surfaces.
Exactement,
Jonathan David,
exactement.
Voilà.
Donc oui, c'est vrai que Zegrova cette année, je pense que c'est vraiment le joueur le plus médiatisé au LOSC. Donc je suis pas surpris de le voir, mais je pense que d'autres Lillois le méritaient plus cette place parmi les nominés.
C'est vrai que c'est toujours un peu la part belle au spectacle, hein, Yann, ce type de trophée. Moi, je me rappelle de Messi, Ronaldo, pendant des années et des années, il y a d'autres joueurs qui auraient pu mériter, mais les deux étaient tellement hallucinants avec des buts incroyables que voilà, c'était Messi ou Ronaldo. Là, c'est un peu ça, c'est le show, les buts magnifiques, et on oublie un peu les performances globales.
Ouais, Zegrova, c'est plutôt la catégorie des joueurs les plus excitants, parce qu'on attend toujours qu'il se passe quelque chose.
On va créer un trophée.
Allez, on fait ça. Et en effet, quitte à prendre un Lillois, il y a Chevalier, mais on met pas de gardien dans cette catégorie apparemment. Parce que même Bizot à Brest, c'est une saison dingue.
Bon, par exemple, là, si vous devez choisir sur les autres catégories, donc je vous redonne. Meilleur jeune, donc Yoro, Ben Seguir, Cherki, Doué, Zaïre Emery. Mathis.
Chez les jeunes, pour moi, il n'y a pas trop de débat, ce sera Zaïre Emery.
Ok.
Ouais, j'aurais bien aimé Eleni Yoro, mais je le mets deuxième derrière Zaïre Emery dans cette catégorie.
Yann.
Pareil, et moi, j'avais oublié que Zaïre Emery avait 19 ans.
Ouais, c'est ça qui fait peur.
Alors, le meilleur gardien de Ligue 1, Bizot, Bulka, Chevalier, Samba, Donnarumma. Je refais un tour de table.
C'est beaucoup plus complexe là.
Ouais, c'est.
J'avoue que j'hésite entre Bulka et Chevalier, mais je le donnerais plutôt à Chevalier parce que il a une clean sheet de moins et 20 arrêts de plus au moins, donc plutôt Chevalier.
Et après, Bizot, c'est le gardien de l'équipe révélation. Mais bon, après, Brest ne peut pas tout récupérer non plus.
Brest peut pas tout récupérer, mais qu'est-ce qu'ils vont récupérer là-dessus, Brest, dans les trophées?
Eric Roy, meilleur entraîneur de Ligue 1.
Ouais, Eric Roy, qui sera à la lutte, je pense, avec Paulo Fonseca, hein, d'ailleurs, à mon avis.
Après, Luis Enrique fait du beau boulot avec Paris, quand même. Ouais, au-delà de la Ligue 1, mais après, quand tu es entraîneur de Ligue 1.
Enrique, c'est qu'il va payer le fait qu'il va être champion, comme tous ses prédécesseurs, finalement. Alors, il y a un parcours plutôt honorable pour le PSG en Ligue des Champions, mais c'est pas censé être pris en ligne de compte dans ce classement, donc il présente pas les meilleures stats du PSG en Ligue 1, que ce soit en termes de nombre de points pris, etc.
Alors, non, parce qu'il a géré.
On est passé à 18 clubs depuis, etc. Mais il a géré, exactement. Mais donc ouais, moi, meilleur gardien, j'hésiterai entre Bizot et Chevalier. Allez, avec un petit fait pour Chevalier quand même, parce que,
Yann,
c'est la région. Bah,
ce sont les joueurs qui votent, donc ils voteront Donnarumma.
C'est vrai que
c'est vrai que 80% des joueurs ne regardent pas les matchs, donc
mais alors qui a déjà choisi les joueurs en fait,
c'est aussi les joueurs.
Pour ça il y a l'explication est là aussi,
on sait déjà qui a gagné là en fait, en gros c'est les 5 finalistes, mais on connaît déjà le gagnant,
donc Zaïre Emery derrière, pas Donnarumma quand même. Donnarumma
alors ils vont faire une spéciale, c'est qui ça fait quelques années, ils mettent un gardien, meilleur gardien de l'année, mais ils ne mettent pas en équipe.
Oui, non, ça c'est formidable. Ça c'est formidable.
Donc, ils ont Donnarumma, meilleur gardien de l'année.
Ils ont fait ça. Ils ont fait ça.
Ils ont déjà fait ça régulièrement.
Incroyable. Bon. Eh ben, ce sera à suivre la semaine prochaine. Ce sera dans la foulée de Tribune Nord et on aura un envoyé très spécial, David Duquesnoy. Vous savez, Monsieur Kipsta Décathlon, qui crée le ballon de la Ligue 1, qui est régulièrement dans les stades avec les joueurs pour échanger. Donc Monsieur a été invité. Donc on l'aura avec nous en ligne depuis Paris pour vivre les prémices de cette soirée, puisque nous serons dans la préparation de cette soirée entre 18h et 19h. Allez, on parle d'un buteur.
Le joueur de la semaine.
Le petit plaisir Eli Wahi du week-end, c'est parti. Buteur de retour, Eli Wahi pour la victoire de Lens face à Lorient.
Attention, c'est à nouveau Eli Wahi qui est lancé dans la profondeur, dans la surface de réparation. La frappe d'Eli Wahi qui va être croisée et qui passe à côté. Et il est chaudement applaudi par le public de Bollard. Eli Wahi, c'est à côté. Oh, Eli Wahi qui va rater, mais il était peut-être en position de hors-jeu. Mais ça, oh, le ballon récupéré. Eli Wahi, Eli Wahi, ouverture du score d'Eli Wahi qui retire son maillot. Et il n'est pas en position de hors-jeu. Eli Wahi.
Très content pour lui. Et je pense que sans vigilance sur le gamin, sur le jeune, parce que c'est vraiment pas évident, je vous assure, quand il y a un peu l'opinion publique contre soi, il faut vraiment avoir une très très grosse force de caractère. Je l'ai dit la semaine dernière, ou je sais plus quand, qu'il était fort mentalement.
Voilà, on se devait de boucler la boucle parce qu'il a été beaucoup critiqué. Bah, il a encore fait un match inégal, mais voilà, il a marqué. Pour les buteurs, les buts sont hyper importants, Yann Duplois.
Ouais, mais il fait pas une mauvaise saison statistique. Il doit être à 8 buts en championnat.
En Ligue 1, ouais.
C'est pas si mal pour une première saison avec tout le poids sur les épaules du transfert le plus cher de l'histoire, tout ça. Par contre, Eli, si tu m'écoutes, arrête avec ton maillot. À un moment.
Alors, on peut raconter ce qui s'est passé en fait.
Il marque son but pour célébrer. Il enlève son maillot, donc carton jaune évidemment. Il enlève son maillot, le monte devant le public et c'est bien, bravo, t'as réagi, t'es fort dans la tête, tout le monde le voit, c'est pas la peine d'en rajouter parce que la semaine prochaine, s'il reloupe quelques occasions, il va lui remettre dans les dents, celui-là.
J'ai l'impression que parfois il colle pas trop à la mentalité, du coin.
Ouais, je suis assez d'accord avec cette analyse, avec ce qu'a dit Yann. Alors, encore une fois, faut pas oublier, c'est un gamin qui a 21, je crois, il y a 21 ans, Eli Wahi. Il s'est fait siffler lors d'un match où Lens gagnait quand même, faut pas l'oublier. Il l'a pas bien vécu, je pense. Et donc là, c'est l'occasion, c'est la réponse. Mais à rentrer dans ce jeu, je pense pas qu'il est gagnant parce que Francaise l'a dit fort justement au précédent match. S'il met tous ses occasions, Eli Wahi, on a un sacré attaquant hein, quand même. Et il est pas à 8 buts cette saison. Et c'est un gamin qui a du talent, du potentiel. Et rien nous dit que l'année prochaine, avec un peu plus de finition, un peu plus de sang-froid, il nous fait pas une saison à 25 buts et Bollard chante son nom de la première à la 90e. Donc, donc voilà, sois patient, Eli, ça viendra, reste focus, concentré, et il n'y a pas de raison que ça ne le fasse pas. Parce que,
c'est vrai que Brice Samba faisait référence, on ne l'a pas dans cet extrait-là, il faisait aussi référence à la gestion de son langage corporel. Et c'est vrai que là, encore une fois, avec cette histoire du maillot, Mathis Caron.
Oui, c'est vrai que c'était peut-être pas la meilleure idée. Enfin, c'est bizarre de répondre comme ça, alors qu'encore quelques semaines, on le voyait pleurer après son but face à Strasbourg, il me semble. Enfin, c'est un peu bizarre, je suis assez d'accord. Mais bon, il faut se rappeler qu'il a que 21 ans. Et je trouve que Francaise a bien fait de le rappeler aussi en conférence de presse. Il a bien expliqué, est-ce qu'il y a des 2003 qui ont déjà mis 40 buts en Ligue 1? Et la réponse, enfin aussi vite, je veux dire. Est-ce qu'il y a des joueurs de moins
de... Et il y en a combien?
Bah, c'est simple, dans l'histoire de la Ligue 1, il n'y a que deux joueurs qui ont réussi à mettre 40 buts aussi vite. C'est Mbappé et Benzema.
Bon,
pas mal.
Donc voilà. On peut dire qu'il est parti sur de bonnes bases.
Ça calme.
Et tant que je suis sur les...
Il reste là-dessus, Eli Wahi.
Oui,
ils disent ça, en fait.
Mais exactement, ouais.
Et tant que je suis sur les stats, il y a que deux 2003 en Europe qui font un meilleur début de carrière sur le plan statistique. C'est Florian Wirtz et Moussiala de Bayern.
C'est pas mal non plus, hein.
Eh oui, bon.
On a tendance à oublier quand même, parce qu'en fait, il faut dire que Mbappé a un peu déréglé la vision qu'ont des gens des jeunes joueurs. Parce qu'il a fait des statistiques énormes dès le début de sa carrière, mais oui.
C'est hyper intéressant. Et c'est vrai qu'on va lui envoyer et qu'il a la limite qu'il le mette sur son maillot et qu'il le garde pour lui.
Il y a tout résumé, c'est les 30-35 millions qui pèsent. Et si le public le siffle alors que Lens mène 1-0 parce qu'il a raté quelques occasions, c'est parce qu'il a été payé 30-35 millions et que les gens se disent à 30-35 millions, celle-là, tu la rates pas logiquement. Et voilà, s'il avait été recruté par Lens 5 millions, tout le monde dirait qu'il a fait une très bonne saison, il a mis 8 buts, c'est formidable et à 21 ans, il est plein de promesses. Voilà, mais il y a le prix du transfert et ce décalage avec le prix du transfert, parce que le marché est aussi des fois un peu fou, qui fait que les attentes des gens sont parfois peut-être un peu disproportionnées et qu'on ne doute pas qu'Eliwayi a le talent pour venir. Et Mathis vient de le rappeler avec des stats éloquentes qu'on a quand même un très bon joueur en face de nous.
Allez, on suivra Eliwayi qui sera suspendu lors du prochain match. Et donc, on verra peut-être Wesley Saïd à la pointe de l'attaque de cette équipe du Racing Club de Lens. On va conclure cette émission avec la Ligue 2.
Tribune Nord, toute l'actualité de la Ligue 2 en direct sur France Bleu Nord. Sylvain Charlet.
Bon, c'est presque fait pour Dunkerque. Dunkerque qui a renversé Quevilly-Rouen en deuxième période. Succès 2-1 après avoir été mené 1-0. Mais on attend l'officialisation du résultat entre Troyes et Valenciennes. Il y avait un partout, mais le match a été arrêté pour jet de fumigène à deux reprises. Donc le match devrait être perdu par Troyes. Et la conséquence de ce résultat, ce serait la validation du maintien de Dunkerque. Mais les chiffres là sont aussi assez incroyables, Yann Duploy. 31 points en 2024. Troisième équipe de Ligue 2 en 2024, derrière Saint-Étienne 36 points et Auxerre 32 points, avec un 18e buteur cette saison en championnat. J'ai pas mal. Voilà, on est super content pour cette équipe de Dunkerque qui pourra peut-être même espérer mieux la saison prochaine qu'un simple maintien.
Ouais, sur la dynamique, encore une fois, on sait jamais. Un maintien plus tranquille la saison prochaine, ce serait largement mérité. Et puis bravo à eux parce qu'ils le méritent de ce maintien. Ça tiendra peut-être à un résultat annulé de 3 contre Valenciennes. Mais en fait, c'est eux qui sont allés chercher depuis le mois de janvier. Ils ont vraiment fait un boulot incroyable, tous ensemble, parce que je pense que dans les têtes, ils n'ont jamais douté. Et ça, c'est assez costaud, que ce soit les dirigeants ou l'entraîneur ou les joueurs. C'est un recrutement intelligent au mercato. Jebamin qui marque, c'est un peu un symbole, parce qu'ils sont allés chercher quand il fallait. Et l'expérience, la touche d'expérience qu'il a fallu. Et puis là, franchement, bravo à eux et c'est super qu'ils repartent en Ligue 2 l'année prochaine.
C'est vrai que c'est hyper intéressant et moi j'ai hâte quasiment d'être à la semaine prochaine, Mathieu Dervaux, parce que c'est vrai qu'ils ont construit une équipe intéressante. Voilà, la charnière sans Gante Lagué, le milieu avec Anziani, Jebamin, Bardelli, Courté à la pointe de l'attaque avec le petit Yacine qui s'est révélé à 18 ans. Ah ouais, c'est vrai que c'est vraiment chapeau pour cette deuxième partie de saison incroyable.
Ah bah, je trouve qu'on peut parler d'exploit et le mot est loin d'être galvaudé. Pour le coup, faut se souvenir qu'en décembre-janvier, ils sont à la lutte avec Valenciennes et on voit que Valenciennes est déjà relégué depuis 3 journées, si je dis pas de bêtises, quand Dunkerque est quasiment maintenu, sauf cataclysme entre Troyes qui... D'ailleurs, petite parenthèse, ça me ferait bien plaisir que Troyes gagne ces deux derniers matchs, que Dunkerque les perde et que Troyes ne descende juste à cause de la bêtise de ses supporters qui pourront se mordre les doigts du coup d'avoir balancé des fumigènes comme des abrutis. Bah, tant pis pour eux, ils le paieront. Mais effectivement, je rejoins Yann, Dunkerque doit rien à personne pour le coup sur ce maintien. Et la stat est éloquente, c'est un troisième équipe en 2024, c'est le Lyon de la Ligue 2. Globalement, le parallèle peut être fait en termes de dynamique d'avant de 2023 et dynamique 2024. Quoi. C'est assez frappant et chapeau à eux, vraiment.
Mathis Caron, j'ai essayé de faire mieux que vous sur les stats. Est-ce que vous avez mieux que moi?
Niveau stats, j'ai pas grand chose à dire, mais vous l'aviez dit, je suis un peu excité même pour la saison prochaine par rapport à Dunkerque, parce que s'ils surfent sur cette bonne dynamique, s'ils arrivent à conserver une grosse partie du groupe pour l'année prochaine, bah, on sait qu'en Ligue 2, ça peut aller très très vite en fait. Hein. On voit que Rodez aujourd'hui est 4e de Ligue 2. L'année dernière, il frôle la relégation. Donc maintenant que jusqu'à la 5e place, on peut espérer une place en play-off pour ensuite voir la Ligue 1. Bah, on peut se dire que pourquoi pas. Et moi, je suis assez excité pour la saison prochaine.
Ce qui a été aussi intéressant, Yann Duploy, c'est qu'on a laissé du temps, voilà, en une nouvelle fois, laissons du temps aux entraîneurs, à Luis Castro. Le but inscrit la semaine dernière, c'est un but qui est inscrit au terme d'une série de 28 passes et d'une possession de plus de 65 secondes. Ça veut dire que voilà, on a travaillé des choses et c'est pas le fruit du hasard en fait. C'est pas juste une équipe qui se met, je sais pas, en bloc médian et qui joue en transition. Non, il y a un vrai projet de jeu là.
Ouais, il y a vraiment un truc qui s'est installé. Effectivement, ce but, il est symbolique de tout ce qui a été fait en amont par le coach qui lui aussi s'est accroché et lui aussi a. Il me fait penser à Paulo Fonseca, ils sont de la même nationalité et les deux ont une vraie idée de jeu et lui, il arrive à faire ça en Ligue 2. Ce qui n'est pas facile parce que la Ligue 2, souvent, c'est des équipes en face qui sont assez rugueuses. Et lui, il arrive à faire jouer Dunkerque comme une vraie équipe de foot qui joue le maintien en plus. Ça, c'est encore plus fort parce que souvent, l'équipe qui joue le maintien, tu disais, c'est on blinde et puis on marque un but en contre. Et ben, Dunkerque, ce n'est pas ça. Donc, c'est vraiment. Non, bravo, chapeau. Et un petit clin d'œil à l'équipe voisine du BCM en basket qui s'est aussi sauvée après une année assez incroyable.
Même genre de remontada pour le coup. Hein.
Bravo à eux aussi.
Avec 10 défaites consécutives pour débuter le championnat.
D'entrée, la salle qui brûle. Enfin.
Mathis Caron, Yann Duploy, Mathieu Dervaux réunis ce soir. On va conclure avec le quiz.
Tribune Nord, le quiz de la semaine.
Alors, on a quoi? Une petite minute trente. Vous savez, je le rappelle, hein, journée spéciale sur notre antenne, puisqu'on a fêté les 30 ans de l'ouverture du tunnel sous la Manche. Je vous ai fait une question qui est des questions qui relient le foot nordiste et le foot anglais. Question qui concerne le LOSC. J'ai des propositions, je sais que c'est pas évident. Le LOSC et les clubs anglais en Coupe d'Europe. Il y a eu 18 matchs de Coupe d'Europe entre Lille et nos voisins anglais. Combien de victoires? 4, 7 ou 9? En 18 matchs. 4, 7 ou 9?
Je vais dire 4.
Je dirais 4 aussi.
4?
Deux fois Aston Villa.
Manchester.
Deux fois Manchester.
Et il y a eu le dernier, je ne sais plus, je ne l'ai pas. Bon, en tout cas, c'est 4. où était parti Bruno Cherou?
Liverpool.
Liverpool, ouais.
Ouais, pendant 2 ans, il avait été recruté par un certain.
J'étais actuellement, moi, je me Bruno Cherou, ce qu'il fait. Il est à Lyon, quoi. Il est à Lyon, il est en projet. Ouais.
Tiens, où jouera la saison prochaine le mancunien Raphaël Varane?
À Lens.
Vous voulez, on a fait le débat la semaine dernière.
Ah ouais, je sais.
Je serai on ne sait pas.
Le choix du cœur.
Il est en fin de contrat avec Manchester et pour l'instant, il n'y a pas de communication sur ce sujet. Le Lensois Franck Queudru, qui a arrêté depuis longtemps, je précise là aussi, a porté les couleurs notamment de quel club anglais? Ça vous dit quelque chose?
Oui, Birmingham, ouais, j'allais dire.
Non.
Ça ressemble ou pas? Ça commence par quelle lettre?
Ça commence par un M.
Middlesbrough.
Exactly. Là, c'est beaucoup plus compliqué. Les clubs anglais où a joué Anthony Knockaert, qui joue aujourd'hui à Valenciennes.
Brighton.
Leicester.
Brighton. C'est bon, je l'ai. Leicester, je l'ai. Nottingham, il vous en reste deux. Fulham et.
Et le dernier.
Ah, il est dur le dernier.
On va avoir un indice.
Ah, vous êtes chaud quand même. Je sais pas. Ah. C'est pas un indice. Je jouais avec dans Football Manager, je partais de la D4.
Ah oui, ça nous aide vachement ça.
Non, je sais pas où c'est placé. C'est pas un club de première ligue, ça commence par un H.
Huddersfield.
Oh là là. Monsieur est un cador. Je crois qu'il faut qu'on arrête là-dessus parce que c'est la fin de cette émission. Si vous avez les classements de la première ligue avec les 8 premiers dans l'ordre.
Actuellement Arsenal,
ouais.
City,
ouais.
Liverpool,
ouais.
Aston Villa,
okay.
Tottenham.
Okay.
United,
Newcastle, Chelsea et Manchester United. Oh. C'est vous dire l'homogénéité du haut de tableau. Merci à tous les trois, Mathis Caron, Mathieu Dervaux et Yann Duplois d'avoir été là. On se retrouve à 20h pour le coup d'envoi de notre soirée Lille-Lyon. À tout à l'heure, Mathieu Dervaux, à 20h au stade avec Grégory Taffaut.